quand explicité, il me semble qu'il y a différents moments qui sont d'autant mieux dévoilés que les recherches antérieures nous ont montré les zones fortes de malentendus sociocognitifs, pour reprendre ce que disait Patrick. Je pense évidemment à tout ce que le travail d'Escol, mais du réseau Reseda, a pu révéler sur les malentendus quant à l'interprétation de la tâche. Si on regarde de façon un peu chronologique, malentendu sur l'interprétation de la tâche, c'est-à-dire les élèves font des choses, mais sur une orientation qui est à côté de ce qui est attendu. Mais ça nous arrive aussi à nous adultes quand on est dans un espace et on ne sait pas exactement pourquoi on est là et ce pourquoi on est réuni. Donc l'importance de ce qu'on a pu appeler avec un travail avec des jeunes en stage d'insertion, dont tout le monde désespérait, ce qu'on a appelé les 5 premières minutes, l'importance de ce temps de présentation et d'installation des élèves dans ce vers quoi on va tendre, la présentation des enjeux, je le dirai comme ça, la présentation des enjeux. Et même si on peut avoir un regard critique sur le travail de la consigne, et on a bien fait de le faire, évidemment, ça nous invite à y revenir. Les enjeux, c'est bien, mais comprendre aussi le but de l'activité qu'on va mener pour travailler ces enjeux, c'est nécessaire aussi. D'où l'importance de travailler avec les élèves sur, je vais reprendre, sur redire la consigne, anticiper quelque peu le travail, on y reviendra peut-être, mais construction d'une posture qui est propre au travail sur des apprentissages scolaires, s'il n'y a rien ne se passe, enfin, tout se passe avant même qu'on ait commencé. Enfin, une partie de l'important se passe avant qu'on ait commencé, dans l'analyse de la tâche, etc. Pré-analyse de la tâche. Deuxième moment qui est important chronologiquement, c'est évidemment ce qu'on vient d'évoquer sur comment, en cours de tâche, on peut avoir des moments propices à l'explicitation de comment les uns et les autres ont-ils pu faire, qui peut se faire soit en collectif, soit au sein de petits groupes, etc. Et on voit bien comment les consignes désignées au groupe sont extrêmement importantes et comment les séquences peuvent être pensées avec non seulement des modalités de travail différentes, mais peut-être aussi avec des consignes qui réorientent la tâche aux différents moments, c'est-à-dire que peut-être le travail de groupe peut être sur échanger ce que vous avez fait, mais ça peut être aussi dégager ce qui est en commun. C'est déjà un changement d'orientation de la tâche qui réoriente le travail et permet de hisser à un niveau supérieur pour faire évoluer l'activité en cours. Le troisième, et ça, les recherches nous disent que c'est aussi très peu travaillé, et Sylvie reviendra probablement sur ce que le travail, l'enquête lire-écrire a pu révéler. Troisième temps qui est un grand oublié, dévoilé par pas mal de recherches, travaux, rapports, c'est ce que les didacticiens appellent le temps d'institutionnalisation. C'est-à-dire on peut avoir des activités qui sont extrêmement bien pensé, avec des élèves qui sont effectivement engagés convenablement dans la tâche et à parvenir à un résultat assez satisfaisant. Mais, faute de temps, ce temps indispensable où on s'arrête de faire pour faire en penser, le passage du réussir au comprendre, est relativement éludé, pris en charge par l'enseignant, au mieux avec l'appui de quelques élèves, en général les têtes de classe, quand pour les autres, c'est fini, ils ne sont plus là. Or, ce temps est évidemment éminemment nécessaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui était au cœur de l'activité, au-delà de son habillage et de son effectuation? Quel principe générique peut-on retenir de l'activité conduite? Faute de dégager le noyau dur de ce qui était au cœur de l'activité, on s'empêche de pouvoir constituer un objet générique qui puisse être mobilisé dans une classe de situations semblables qui mériterait cette mobilisation. Autrement dit, les élèves, dans une tâche qui devrait convoquer ce savoir, il n'est pas sûr que tous puissent reconnaître une activité de même nature. Donc, troisième temps, c'est le temps d'institutionnalisation. On pourrait dire qu'il y a un autre temps qui est celui qui fait l'accroche entre la séance d'aujourd'hui et celle d'hier et peut-être celle de demain. On pense évidemment à toute cette activité de rappel qui, elle, est plus fréquemment, semble-t-il, utilisée dans les classes. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a dégagé? Et là, vous le savez, on a souvent de belles surprises. Et ces moments de retour sur activité, sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que les élèves en ont retenu. Et un bon test de est-on arrivé à faire saisir à tous ce qu'on voulait leur faire saisir. Souvent, ça nous renvoie à beaucoup d'humilité. Disant, je pensais que c'était clair, mais ça ne l'est pas encore. Et ce que j'avais pensé en deux séquences va peut-être mériter une autre séquence, en tout cas, de s'arrêter sur. Donc, on a là voilà, des choses qui me semblent être de nature à faire avancer ces élèves dont les travaux sur le rapport au savoir ont montré qu'ils vivaient l'univers scolaire et les activités comme une suite d'activités se succédant les unes après les autres sans continuité, de permettre aux élèves d'appréhender la continuité des apprentissages et des objets, du travail sur les objets, donc leur permettant d'aller au-delà de la discontinuité, de la temporalité des moments où on les a travaillés. Donc récupérer et puis aussi anticiper, on voit bien comment aussi il est important en fin de séance, comme tous les problèmes ne sont parfois pas résolus, de noter dans un coin de tableau la question qui se pose et qui va permettre du coup de faire que le cours se continue au-delà du cours, porter l'interrogation ou la mettre en suspension et qui nous permettra une reprise ultérieure, en tout cas, encore une fois, de faire continuité sur les objets travaillés.
Oui, moi je suis très, très sensible au propos de Sylvie sur le fait que on met beaucoup l'accent sur l'avant, éventuellement sur l'après, et assez peu sur le pendant, évidemment. C'est sans doute plus difficile. Alors, pour des raisons qui sont à la fois des raisons, je pense, didactiques, c'est-à-dire le fait que c'est imposer l'idée que si la préparation est parfaite, alors les choses vont bien se dérouler. Je sors de la lecture d'une thèse sur comment devient-on professeur des écoles, et on voit le prix que les stagiaires en formation accordent à l'idée que le formateur, il nous donne ses fiches de prep, c'est génial, ils sont extrêmement heureux parce qu'ils pensent qu'une partie du travail est déjà effectuée et qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Les désillusions sont à venir. Donc il y a là cet aspect et qui malheureusement compose avec un autre aspect qui est la division du travail éducatif. Je m'excuse d'y revenir d'un point de vue lourdement sociologique, mais au fond, l'idée qu'on accorde autant d'attention à la préparation, qu'on diagnostique relativement peu pendant le travail, et j'y reviendrai, et que d'autres acteurs que soi vont intervenir au moment des exercices, c'est une idée qui, je crois, participe du démembrement de l'activité intellectuelle des élèves et ne permet pas d'avoir des prises d'indices sur, à chaque moment du processus, comment ils se situent, comment ils travaillent et comment on peut les aider à travailler. Dans le cas de la dévolution au travail. Nous avons fait avec Gérard Sansevi un article dans, je crois que c'est le dernier numéro de la revue française de pédagogie, dans lequel nous sommes dans une aide au travail en sixième, une aide au travail des élèves. On voit que l'enseignante a donné une fiche en sciences de la vie de la Terre, fiche qui est composite, faite à partir de la photocopie d'un manuel en usage dans la classe, mais aussi avec des consignes qui sont assez paradoxales, où les élèves doivent tout à la fois s'entraîner gratuitement, mais en même temps, il y aura peut-être une interrogation. Voilà, donc je passe le détail de ça, mais vous pourrez le voir si vous voulez. De telle sorte que cette fiche apparaît plutôt un instrument pour les adultes que l'on va pouvoir se transmettre dans l'aide au devoir qui n'est pas assurée par les enseignants de la classe ni non plus forcément par des enseignants des SVT. Donc il y a là quelque chose qui a toute l'apparence d'un support pédagogique mais qui n'en est pas un. Et moi, ce que je vois en étant assis à côté de la jeune fille qui est en échec assez important sur l'exercice pendant une heure et demie, je vois des choses que l'intervenante ne voit pas, tout simplement parce que je suis présent à côté d'elle et qu'elle me parle un peu. et que le travail qu'elle a à faire, qui est sur la, comment se reproduisent les cellules de levure de boulanger, elle est convaincue que les cellules de levure de boulanger se font des bébés, comme son papa et sa maman, et que ça tombe à peu près, enfin assez largement à faux par rapport à ce qui lui est demandé. Mais cette espèce d'obstacle épistémologique évident que tous les profs de SVT connaissent, bien évidemment, on ne peut pas le diagnostiquer et le faire diagnostiquer à l'élève si on n'est pas à côté d'elle pendant qu'elle travaille. Je ne suis pas didacticien, mais il me semble parfaitement évident que si l'intervenante s'était posée, elle en avait eu la possibilité, puisque ça n'est pas sa fonction, elle doit faire le garçon de café, comme je dis, en cédant aux sollicitations les plus fortes dans la salle, elle aurait très certainement repéré ça, aurait facilement débloqué la situation, renvoyé au cours pour quelque chose qui relevait, je crois, d'une explicitation assez simple, mais qui ne pouvait être une explicitation que parce que la jeune fille avait elle-même explicité comment elle comprenait le phénomène en renvoyant à sa propre histoire familiale, etc. Donc ça c'est un point qui me paraît important. Le deuxième point qui me paraît important, mais sans doute encore plus difficile, c'est que y a-t-il dans la pratique des équipes enseignantes, alors c'est plus délicat évidemment dans le second degré où les enseignants continuent d'être des spécialistes de discipline, y a-t-il des moments dans ces pratiques-là où il peut y avoir un diagnostic collectif de ce que sont les difficultés des élèves en question? Je n'en suis pas convaincu. Ce que l'on voyait dans l'aide aux devoirs sur laquelle nous avons travaillé, c'est que quelques participants à cette aide aux devoirs, alors même qu'ils ne savaient pas aider les élèves à travailler, alors qu'eux-mêmes ne savaient pas forcément faire l'exercice quand ils n'étaient pas de la discipline, avaient au moins le réflexe de renvoyer à l'enseignant de la discipline le fait qu'une partie importante de la classe était en échec là-dessus. Je veux dire que ce type de régulation tout à fait improvisée, on peut imaginer qu'il serait un peu plus systématique. Je conçois bien l'intérêt qu'il y a pu y avoir à remplir de manière détaillée les livrets personnalisés de compétences, mais nous sommes là devant une atomisation, de mon point de vue, des critères d'observation qui n'a aucun rapport avec ce qu'on pourrait imaginer comme étant cette expertise plus collective devant des travaux réels des élèves et devant leur mise en difficulté ou pas réelle. Et ça, je pense qu'il y a peu d'endroits. Alors, est-ce que les épis amorcent la possibilité de ce travail, puisqu'en effet, dans l'interdisciplinarité, ou peut-être plus modestement la multi- ou pluridisciplinarité, ces questions-là doivent apparaître, les élèves étant devant des tâches plus complexes et dont on peut supposer amener à montrer des choses qui dépassent très largement le caractère de la consigne, puisqu'ils sont forcément mis dans des difficultés plus considérables que celles d'une simple effectuation.